Fréquence Europe, l'émission européenne de Radio Judaïka réalisée avec l'Europe Direct de Strasbourg. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'émission européenne hebdomadaire de Radio Judaïka. Cette semaine a lieu la session plénière du Parlement européen à Strasbourg et comme nous en avons pris l'habitude avec notre partenaire l'Europe Direct de Strasbourg, nous prenons nos quartiers ici dans les studios du Parlement européen pour aller à la rencontre des députés qui siègent à Strasbourg toute cette semaine. À l'approche des élections européennes, l'activité législative à Strasbourg s'accélère avec plus de 30 votes à son ordre du jour, avec notamment la très controversée directive contre le tabagisme, par exemple, l'introduction dans les véhicules d'un système d'appel d'urgence appelé ICO, l'adoption d'un programme financier d'aide aux plus démunis, ou encore l'adoption du paquet ferroviaire ouvrant le transport de voyageurs à davantage de concurrence. Le Parlement s'intéresse aussi à l'évolution récente en Ukraine et les conséquences du vote suisse sur les quotas d'immigration dans ses relations avec l'Union européenne. Alors pour revenir avec la plupart de ces sujets, j'ai le plaisir de recevoir Madame Nathalie Griesbeck. Bonjour Madame Griesbeck.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté de nous consacrer un peu de votre temps pour cette émission. Alors je vais un petit peu vous présenter à nos auditeurs. Alors Madame Griesbeck, vous êtes députée européenne depuis 2004, soit deux législatures. En 2009, vous êtes élue sur la liste du Modem, donc la liste menée par Monsieur Bayrou, dans la circonscription du Grand Est. C'est pas lui qui l'a menée, mais c'était donc à la tête de ce mouvement qui compte notamment le Grand Est, qui compte notamment l'Alsace et la Lorraine. Alors ici au Parlement européen, vous appartenez à un groupe dont fait partie le Modem, qui s'appelle donc l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, présidée par l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt, dont peut-être on entendra parler avec les élections européennes. Vous travaillez plus particulièrement au sein de la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, et également au sein de la Commission des transports et du tourisme. Jusque-là, je n'ai pas commis d'erreur.
C'est parfait.
Je dois encore ajouter que vous êtes également une élue locale, puisque vous êtes président du vice-président du Conseil général de la Moselle. Pas d'erreur, on est toujours d'accord. Alors, j'ai assisté à une conférence de presse à laquelle vous avez participé hier. Vous étiez donc associé avec quelques autres députés à une conférence de presse organisée par l'Association européenne des jeunes entrepreneurs, qui a lancé une publication sur un second rapport pour défendre le siège du Parlement européen à Strasbourg. Vous qui êtes membre d'un groupe parlementaire ici qui n'est pas foncièrement favorable à Strasbourg, que faudrait-il faire selon vous pour cesser ces attaques qui finissent aussi par nuire à l'image du Parlement européen, mais aussi de ses députés, surtout dans notre circonscription, j'entends bien, encore plus.
Il faut tout simplement cesser d'essayer de défaire ce qui existe et ce qui fonctionne en attaquant sans cesse Strasbourg comme siège du Parlement européen. Je crois que dans la distribution des cartes, au moment où on a démarré la construction européenne, la France a comme seule institution européenne le Parlement, dont le siège est à Strasbourg. Et donc nous devons préserver cette institution, faire en sorte que Strasbourg soit une capitale européenne incontournable et même une capitale des droits de l'homme, puisque peut-être que l'entente franco-allemande a un petit peu disparu des mémoires des plus jeunes. Mais l'idée de concentrer sur Strasbourg tout ce qui touche aux droits de l'homme et à la démocratie européenne est une bonne idée. Et puis ces batailles incessantes d'adversaires du siège qui se servent de ce combat pour essayer de manière démagogique d'obtenir des voix dans leur pays, notamment les Anglais, ce combat n'a que trop duré. Il y a des arguments juridiques, des arguments historiques, des arguments politiques qui démontrent que Strasbourg doit rester le siège. Alors, évidemment, on peut dire il ne faut qu'un seul siège, puisque, comme chacun sait, effectivement, on transhume.
Il y en a qu'un, juridiquement parlant.
Mais alors, on n'a qu'à concentrer tout, parce que la théorie, c'est de dire « one seat », comme disent les adversaires de Strasbourg. Moi, je les prends au mot, tout à Strasbourg, les réunions des commissions, les réunions des groupes parlementaires. Le Parlement, ici, est magnifique, il y a la place qu'il faut. Et ça permettrait d'ailleurs de conforter l'indépendance du Parlement et ses pouvoirs extrêmement importants. Nous n'avons pas besoin d'être dans le giron perpétuel de la technostructure, des eurocrates. Nous avons, depuis le traité de Lisbonne, beaucoup de pouvoir. Ça conforterait notre indépendance et notre force.
C'est intéressant de vous entendre parce que l'argument de ceux qui sont un peu ce qu'on appelle le single seat ou one seat, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'eux disent qu'en mettant le siège unique à Bruxelles, il y aura un moyen de mieux fonctionner. Et vous, vous dites, tout à
c'est
Strasbourg...
C'est un leurre. D'abord, si on veut dialoguer avec les commissaires, ils sont ici. Moi, chaque fois que je souhaite voir Madame Elström sur mes dossiers justice, affaires intérieures, liberté, il n'y a aucun problème. Elle est dans le même bâtiment que moi et je peux discuter avec elle. En outre, c'est un leurre parce que par les voies de technologie, on peut tout à fait
communiquer
d'une manière fantastique et efficace. Donc, c'est un leurre. C'est beaucoup de démagogie. Et je vais vous dire... En plus, je crois que les Européens ont d'autres soucis bien plus importants et que nos priorités devraient être ailleurs plutôt que de s'écharper, ce qui donne d'ailleurs une image détestable en fait pour les citoyens européens, cette espèce de combat récurrent, alors qu'il faudrait l'unanimité pour modifier les traités. Les traités sont clairs et on est loin d'obtenir l'unanimité. Notre pays n'acceptera ça jamais.
Bon, y a une mise en cause qui effectivement crée toujours des craintes, surtout puisqu'il y a de plus en plus de députés, mais je pense qu'on va passer à un autre sujet qui intéressera encore peut-être plus nos auditeurs, puisque pendant cette session a été adopté un système pour les voitures dénommé e-call. Alors, vous êtes membre de la commission des transports, vous avez dû voir passer ce rapport. Qu'est-ce que ça va changer pour nous, citoyens, pour notre quotidien, pour nous, conducteurs, ce système-là ?
C'est un dispositif qui va permettre d'assurer plus de sécurité pour les automobilistes à partir de 2015, puisque tous les véhicules seront équipés d'un dispositif technologique qui permettra de manière automatique, en cas d'accident, de vous repérer et donc d'accélérer les secours, d'accélérer les soins. Si on prend les chiffres de 2013, par exemple, il y a eu, je crois, 12 000 morts sur les routes européennes et 1,5 million de blessés. L'idée, c'est d'essayer, en accélérant les secours, par le truchement du 112, du numéro
d'appel d'urgence
européen, de prévenir le plus vite possible les dégâts corporels importants. Donc c'est une bonne chose. Je trouve que c'est un progrès par rapport à la sécurité des automobilistes.
Donc très concrètement, nos voitures, à partir de 2015, seront équipées de ce système automatiquement, comme la ceinture de sécurité
ou
comme d'autres.
Alors il y avait un débat sur est-ce qu'il est possible que vous ayez conscience qu'éventuellement, quand vous entrez dans votre voiture, ce système automatique va enregistrer vos données.
Donc,
un peu comme votre téléphone ou quand vous utilisez votre carte bancaire, etc. Donc il y a eu un débat là-dessus. Et donc à travers le vote, il a été décidé que ce caractère automatique restait et donc on assurait à tout prix la sécurité plutôt que donc organiser un système un peu plus compliqué.
Et nos données sont quand même protégées.
Oui. Ah oui, c'est obligatoire.
Oui, parce que là, c'est vrai qu'on pourra nous...
Depuis quelque temps, depuis l'affaire Prism et NSA ou Snowden, enfin, on prend conscience de cette divulgation, parfois au-delà de notre consentement, d'immensément de données qui nous permettent d'être tracés. Donc, il faut qu'on en ait conscience pour pouvoir aussi les protéger.
Ce sera certainement encore un débat dans la prochaine législature,
ces protections des données. Ce sont des débats très importants, notamment dans la Commission des libertés.
Alors, j'ai aussi une autre question, mais qui rejoint. Là, on était dans les voitures, maintenant on va partir dans le train, puisque le Parlement européen a adopté ce qu'on appelle le quatrième paquet ferroviaire, si je ne me trompe pas. Alors, je dis que c'est un rapport assez controversé, puisqu'il s'agit en fait d'une ouverture à la concurrence. Et on connaît en France, notamment depuis quelques années, l'opposition de certains à ce principe de concurrence. Et on l'a encore vu ici à Strasbourg, puisqu'il y avait une manifestation qui regroupait des cheminots européens hier devant le Parlement européen pour montrer un peu leur opposition à ce texte. Alors, finalement, il a été adopté. Alors, concrètement, vous pouvez nous dire quelques mots. Qu'est-ce que prévoit ce texte? Quelle est cette ouverture à la concurrence du ferroviaire pour les voyageurs, en fait.
En quelques mots, d'abord, c'est le quatrième paquet ferroviaire, c'est dire si ce dispositif de libéralisation, en fait, d'abord du fret et ensuite du voyage passager à l'international puis au national, est un dispositif qui s'étale sur plusieurs textes et sur plusieurs années. Donc, l'idée de mise en concurrence, c'est pour essayer d'apporter de meilleurs services donc aux consommateurs, aux citoyens européens. Et ce qui a été le plus controversé dans ces deux textes, le rapport El Kadraoui et le rapport Grosch, il y avait deux textes, c'est peut-être les contours de la gouvernance. Donc l'idée de séparer le gestionnaire d'infrastructure de l'opérateur commercial, par et exemple pour nous la France, hein. Oui, de l'exploitant, pour nous la France, c'est le gestionnaire, c'est Réseau Ferré de France, et puis l'exploitant qui doit avoir de la souplesse, de la réactivité, de la flexibilité, c'est la SNCF. Donc le gros débat était sur est-ce qu'on peut rester en holding, est-ce que l'un prend le pas sur l'autre. Finalement, on a trouvé un équilibre. Le vote a été. J'ai lu tout à l'heure un communiqué qui disait que c'était un peu comme Echternach, deux pas en avant, un pas en arrière. Il y a des dispositions qui ont calé la libéralisation, puis d'autres qui ont un petit peu fait machine arrière par rapport à ce système en holding. Alors la SNCF et RFF, c'est assez étonnant. Ça va peut-être faire pousser des cris d'orfraie chez vos auditeurs. Jusque-là, nous étions séparés. Nous avions décidé de séparer, de mettre la dette, ce qui était assez logique, ce Réseau Ferré de France, puisqu'il construit des infrastructures, qui seront utiles pour nos enfants, nos petits-enfants et arrière-petits-enfants. Et puis SNCF, qui était séparé, qui n'avait pas la dette, qui pouvait avoir les coûts des franges. Cela dit, ils commencent à avoir aussi des difficultés financières. C'était notre modèle. L'Europe s'est orientée vers ce modèle-là. Et au moment où on commençait à s'orienter vers ce modèle qui était le nôtre, la France s'est dit « Oh non, on veut de nouveau fusionner ». Donc ça a donné beaucoup, beaucoup de débats sur la gouvernance. On a trouvé une cote pas trop mal taillée avec donc une holding possible. Mais on est paradoxaux en France. On est très paradoxaux.
Et l'Europe est toujours dans cette culture du compromis. Donc on a trouvé un compromis quand même pour avancer.
Oui, absolument. Ça a mis du temps, mais c'est fait.
Alors nous a rejoint dans le studio Barbara... Alors, je vais pas, j'ai pas envie d'écorcher ton nom. C'est Echotnica ou Echotnitska.
On peut dire Echotnica, oui.
Voilà. Donc, Barbara, alors, je m'excuse d'avoir m'être trompé sur ton nom. J'aurais dû en discuter avec toi tout à l'heure. Alors, je te tutoie alors que je ne devrais même pas. Mais je te connais, donc on pourra expliquer ça à nos auditeurs. Donc, tu es slovaque et tu étudies actuellement à l'Université de Strasbourg. Voilà. Et régulièrement, tu vas intervenir dans l'émission pour nous présenter un sujet de ton choix. Alors, quel est le sujet de ton choix de cette semaine?
Tout à fait. Merci, Olivier. Bonjour, Madame Nathalie Griesbeck. Je veux profiter de mon intervention pour parler de la Suisse. Alors, vous l'avez certainement entendu, le 9 février, donc il y a quelques semaines, la population suisse a décidé de limiter l'immigration dans le pays.
Oui. Oui. Alors, tout le monde en parle, mais alors, qu'est-ce que c'est exactement?
Alors, pour être bref, les électeurs suisses, en fait, ont décidé à une très courte majorité, donc c'est-à-dire 50,3%, de limiter l'immigration massive. En effet, actuellement, il y a 28% des étrangers qui vivent en Suisse. La proposition de référendum a été présentée par l'UDC, le Parti populiste suisse, et elle cherchait à instaurer des quotas à l'immigration et de renégocier la libre circulation avec les pays de l'Union européenne. Bien entendu, la Suisse n'est pas un pays membre de l'Union européenne.
Il faut le rappeler.
Voilà. Certes, elle partage des valeurs avec l'Union, elle lui ressemble, mais ça reste une pièce manquante dans le puzzle européen.
Donc, si la Suisse n'a jamais voulu faire partie de l'Union, alors, si on a bien compris, alors elle fait quoi? C'est quoi ses relations? Et pourquoi on a un problème avec la libre circulation avec l'Union européenne?
Donc, la Suisse, non, elle ne veut pas faire partie de l'Union européenne. En Suisse, la position vis-à-vis de la construction européenne n'a jamais cessé d'être ambiguë, en fait. Depuis la Seconde Guerre mondiale, la Suisse a refusé d'adhérer à l'Union européenne par des traités. C'est seulement le domaine économique qui semble être envisageable. Alors, par exemple, en 1959, la Suisse a dit oui à l'Association européenne de libre-échange. Mais l'adhésion à l'Union européenne n'est pas du tout à l'ordre du jour. La Suisse refuse de perdre sa souveraineté et c'est pour ça que le peuple suisse a rejeté en 1992 l'entrée dans l'espace économique européen. La Suisse refuse donc toutes sortes d'adhésions et privilégie ce qu'on appelle les accords bilatéraux. Les accords bilatéraux instaurent donc une coopération bilatérale dans des domaines différents. Par exemple, d'après les bilatérales, les Suisses peuvent s'établir dans un pays de l'Union européenne pour y travailler ou pour y vivre. Et en contrepartie, les Européens peuvent faire la même chose en Suisse. Et c'est exactement cette partie sur la libre circulation des personnes qui semble être remise en cause. Eh bien, c'est très simple. En Suisse, le peuple ou un parti politique peut lancer un référendum s'il n'est pas d'accord avec les textes législatifs adoptés. Ici, en l'occurrence, c'était le parti UDC qui a été à l'origine de la votation populaire. Mais au final, c'est quand même les citoyens qui ont décidé de limiter l'immigration. En effet, la Suisse, l'union de 26 cantons souverains, est l'un des rares pays dans le monde à encore pratiquer la démocratie directe. Donc c'est-à-dire que toutes les questions importantes sont tranchées par le peuple et pas par les parlementaires. Le peuple a pris sur les élus, notamment grâce à deux outils de la démocratie directe, le référendum et l'initiative populaire.
Donc quels sont les enjeux de cette décision ?
Alors tout d'abord, à noter que sur les 8 millions d'habitants, les 1 800 000 Européens ne vont pas se sentir bienvenus. Après, c'est le risque aussi de remettre les relations avec les voisins européens en cause. Parce que si on met fin à l'accord de libre circulation, tous les autres accords économiques seront aussi à revoir. Et d'autre part, il y a les partis nationalistes et eurosceptiques qui se réjouissent de ce résultat. Notamment Marine Le Pen et puis aussi le parti populiste britannique qui salue la lucidité du peuple suisse.
On l'a encore entendu aujourd'hui, il y a eu un débat aujourd'hui sur la Suisse au Parlement européen. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, finalement, de cette décision d'un peuple souverain, comme elle l'a présenté, qui décide de revenir ?
D'abord, je respecte une décision qui est une décision populaire du peuple qui s'est exprimé et qui est comme un signe avant-coureur de l'ambiance qui règne en Europe. Même venant d'un pays qui a une prospérité, qui a un taux de chômage en dessous de 5% et qui a un imminent besoin en plus de main-d'œuvre venant d'ailleurs. Ça, c'est le premier constat. Donc, je respecte. Deuxième constat, c'est que finalement, on est toujours l'étranger de quelqu'un. Ça nous fait du bien de nous rendre compte que on peut être rejeté, comme il nous arrive de rejeter aussi ici ou là des gens. Donc, on est rejeté. Troisième point, il est plus juridique, vous l'avez dit dans votre analyse, cette décision, elle entraîne en cascade, en fait, la remise en cause de 8 autres accords. Il y en avait 9, dont celui-ci sur la mobilité, la liberté de circulation. Mais c'est avec un mécanisme juridique de l'effet guillotine, tous les autres accords vont devoir être renégociés. Donc ça va nous amener à discuter, à remettre sur la table des choses qui étaient finalement dans l'air du temps, qui étaient dans le quotidien. Il y a 145 000 Européens, et notamment en fait Français, qui passent chaque jour
la frontière
pour aller travailler dans des lieux professionnels où il manque de main-d'œuvre, dans les hôpitaux, dans les services, etc. Donc ça va être un peu compliqué, tout en disant, je le redis, que je respecte une décision, mais que je la sens comme un signal de ce qui se profile à l'horizon pour nous. J'étais d'ailleurs à 3 jours de ce référendum du 9 février dans une conférence, une rencontre en fait politique sur les Européennes à Besançon, en Franche-Comté. Et dans mon introduction, je suis la seule d'ailleurs à avoir dit « dites, dans 3 jours, là, il y a quelque chose qui va se passer, une votation ». Comme si j'avais une vraie intuition. Et on est passé à autre chose. Et malheureusement, mon intuition s'est vérifiée. Donc maintenant, il va falloir faire avec ça. Mais essayons d'analyser ce vote. Ça signifie que même là où c'est prospère, là où il n'y a pas de chômage, il y a une espèce de crainte sourde, une ambiance d'angoisse dans les pays européens, même dans un pays comme la Suisse. Ensuite, il va falloir qu'on travaille tout ça, parce que la liberté de circulation, c'était un des acquis et une des volontés de la Suisse. Et c'est remis en question.
Mais on le voit.
Et il y a plein de gens qui ont des craintes.
Mais là,
parce qu'ils s'interrogent, ils se demandent. Moi, j'ai prévu d'ailleurs d'appeler une amie qui est française infirmière pour avoir son ressenti. Ils ont des craintes. Et même moi qui vis, donc vous avez dit tout à l'heure, le Grand Est, c'est l'Alsace, la Lorraine, mais c'est aussi la Franche-Comté, la Bourgogne et la Champagne-Ardenne. Et moi qui vis un peu quand même en Lorraine, et où il y a 85 000 frontaliers qui vont au Luxembourg. Alors, le Luxembourg, c'est un pays de l'Union. Mais si tout à coup...
un pays de l'Union décidait aussi de vouloir restreindre.
Si tout à coup, ils commençaient à dire, on va privilégier nos nationaux. Enfin, s'ils commençaient à se recroqueviller, ça créerait des problèmes majeurs, déjà.
Mais c'est une des craintes, c'est l'Union européenne essaie de réagir pour montrer qu'on ne peut pas choisir à la carte ce que l'on veut, notamment comme ça a été fait avec la Suisse. C'est pour ça que, d'une certaine manière, il y a tout suit comme un jeu domino, en
fait. Absolument, comme un jeu de domino qui s'écroule. Cela dit, moi, je ne partage pas. On a entendu des gens qui disaient « ils se tirent dans le pied », etc. On n'a pas le droit de dire ça. Les gens se sont exprimés par une votation populaire. Ils ont voulu dire quelque chose. Ils ont dit quelque chose qui est compliqué pour eux, qui est compliqué pour nous. Mais ils ont dit quelque chose. Ça, on peut pas dire. Ils déraillent.
On a aussi eu une réaction populaire en Ukraine très récemment. Donc avec ces derniers événements, il y a également eu un débat pendant cette session et aujourd'hui même. Quelle doit être maintenant l'action de l'Union européenne, puisqu'on peut aussi lui reprocher pendant un certain temps d'avoir été un peu tâtonne, de pas être, d'être un peu trop observateur et pas d'avoir essayé d'intervenir un peu plus dans ce qui se passait. Comment peut-elle intervenir maintenant?
Alors, moi, j'étais en décembre en Ukraine avec Marielle de Sarnez. Et donc, on était sur Maïdan. C'était fantastique parce qu'on s'est exprimé en français. Les gens ont répondu en français, en chantant la Marseillaise, etc. C'était extrêmement émouvant. J'ai envie de dire d'abord, vraiment bravo pour le courage qu'ils ont eu, pour cette détermination, cette farouche envie de terminer avec un système dont ils ne voulaient plus entendre parler, c'est-à-dire la corruption, le non-respect des droits. Davantage que l'entrée dans l'Europe. Moi, je pense, ça, c'est l'ambiance vraiment magnifique, cette force que le peuple a eue au prix de la vie de dizaines de personnes, quand même. Hein. C'est déjà en décembre, c'était extrêmement tendu. On avait vu des jeunes femmes dont les compagnons avaient été tabassés, avaient disparu. C'est des régimes épouvantables. Alors, que doit faire l'Europe? L'Europe, elle doit accompagner, elle doit écouter. Elle doit, à mon avis, nouer des vrais partenariats, être à l'heure au rendez-vous, être capable de vraiment de répondre et d'être partenaire économique, partenaire politique, les aider au maximum. Ensuite, la réponse, c'est comme pour tous les peuples, ce sont les Ukrainiens qui la détiennent. Des élections, de la démocratie et remonter leur économie, ouais. Parce qu'ils ont plein d'atouts.
Mais on a bien vu qu'il y a déjà eu ce qu'on a appelé la révolution orange. Il y a déjà eu des démarches qui ont été entreprises en ce sens. Et on voit bien que 10 ans après, l'Ukraine, elle est dans une situation qui est peut-être encore
pire.
Elle
n'est pas pareille. C'était pas pareil, je crois. La révolution orange, il y avait vraiment comme une partition. Le côté russophone et puis le côté qui regardait plutôt vers l'Occident.
Mais il n'y aurait pas un risque de partition aujourd'hui? On en parle quand même un petit peu.
On en parle un peu, mais je ne suis pas sûre. J'ai l'impression, moi, quand j'y étais en décembre et puis qu'on a suivi tout ce qui s'est passé ces derniers jours, ils ont une forte envie de trouver les voies de la démocratie. Et nous, on doit au maximum être à leur côté, les aider en faisant très attention parce que on marche sur des œufs un peu, parce que leurs grands voisins russes regardent ça de près. Je crois que Poutine était très occupé par les Jeux Olympiques et que il va regarder. Donc il faut qu'on les aide, mais moi j'ai une immense admiration pour ce qu'ils ont été capables de faire.
C'est clair que au vu des images, on peut plus avoir de l'administration.
Oui, tout à fait. Donc souvent après une révolution, c'est dur, c'est long, et il y a encore des sacrifices. C'est-à-dire que du jour au lendemain, c'est pas parfait.
Alors revenons un peu plus localement, puisque se profilent donc des élections européennes, donc les élections des députés européens de ce Parlement. Vous êtes donc membre de ce qu'on appelle aujourd'hui l'UDI Modem, l'alternative, voilà. Qui regroupe l'UDI et le Modem notamment. Il y a aussi la gauche moderne, si on veut être précis. Serez-vous donc candidate, tête de liste? Est-ce que l'UDI et le Modem ou l'alternative a choisi son candidat dans le Grand Est?
L'alternative, qui est composée des forces de l'UDI, parce qu'il y a plusieurs mouvements, et puis du mouvement démocrate, le Modem, annoncera ses têtes de liste sur les 8 euros circonscriptions en même temps, et j'espère à la fin de cette semaine. personnellement, je suis candidate pour poursuivre ce travail. Je pense aussi qu'en France, on devrait vraiment tout faire pour investir sur des députés qui s'investissent et qui connaissent les dossiers et qu'on n'aille pas dans les travers des autres mouvements politiques français voilà. Qui font un peu dans le showbiz.
Vous, si vous êtes, donc, quoi qu'il arrive, je pense que vous serez dans cette campagne, que vous soyez première ou deuxième sur cette liste. Comment s'annonce cette campagne ? Parce que c'est vrai que nous, si on le voit dans le Grand Est, on a quand même des candidats. Il y aura beaucoup de Mosellans cette fois-ci qui seront tête de liste.
Moi, j'en vois pour l'instant un seul.
Nadine Morano n'est pas...
Elle est meurtre et Mosellane.
Ah, vous voyez, fou, voilà. J'ai peut-être ma culture...
Elle est de Toul, et donc...
Alors, on aura quand même trois têtes. Il y aura donc Xavier Martin, donc... alors, c'est plus la Lorraine, alors on va présenter ça.
Ah, si
alors,
on va présenter.
Il y aura donc Xavier Martin qui
moi,
sera...
Moi, je dis toujours Grand Est. J'ai sentiment d'être Grand Est,
c'est vous avez
dans
raison.
Ma voiture.
Non, mais on sent que la campagne sera quand même assez singulière.
Avec Monsieur Philippot est parachuté, on ne sait pas vraiment d'où il vient, mais il n'est pas du Grand Est.
Mais comment s'annonce finalement cette campagne ? Parce que nous, là, il y a les municipales qui vont d'abord. Comme on a parlé un petit peu de populisme, on sent quand même que, par exemple, un débat sur les frontières, sur l'immigration, on va peut-être revenir également. Là, on a beaucoup parlé de Schengen il y a quelques mois. Comment vous la sentez, cette campagne ? Est-ce qu'on va vraiment parler d'Europe ?
Alors d'abord, il faudra d'abord dire qui fait quoi. Moi, je ne sais pas. Je suis candidate comme tête de liste. On verra ça, j'espère, très bientôt, puisque aujourd'hui, 25 février, on est à 3 mois de l'élection. Mais c'est vrai qu'en France, on a un embrouillamini puisque on a une élection locale en même temps que la préparation, ce qui risque d'escamoter le débat et le parler d'Europe.
C'est pour ça qu'ici, à Fréquence Europe, on en parle plus tôt.
C'est vraiment très bien. J'ai oublié de vous remercier en début d'émission.
Non, ne me remercie
pas.
Bravo
de parler d'Europe et d'essayer d'approfondir. Donc, c'est ma première remarque. La deuxième remarque, c'est que justement, dans ces élections, et notamment dans le Grand Est, il faudra qu'on essaie vraiment de parler d'Europe, pas seulement du bilan, mais de quelle Europe on veut, de quelle Europe dans la mondialisation, de quelle Europe dans le cadre de l'économie. Et moi, ce à quoi j'aspire, c'est une Europe politique, de relever un peu l'étendard des pères fondateurs, qui d'ailleurs au départ sur le charbon et l'acier ont démarré la construction européenne, et puis la paix. Et qui ensuite, peut-être ont vu leur œuvre aller un peu comme un canard sans tête, exclusivement sur un grand marché économique sans fin, avec un élargissement que les Européens n'ont pas compris. Moi, je pense qu'il est temps de reprendre les choses et de se caler sur une Europe politique. Et donc, pour ça, les élections, vous l'avez dit en introduction, amèneront une dose de politique avec donc l'idée d'un programme politique porté par ceux qui seront présidents de la Commission. Parce que jusqu'à présent, si vous voulez, on nous a mis comme président du Conseil européen des personnalités que les États aimaient bien parce qu'elles étaient peu gênantes. Si vous demandez dans la rue à quelqu'un « Est-ce que vous connaissez le président du Conseil, Van Rompuy ?» Personne ne connaît. Maintenant, Barroso, les gens connaissent un peu.
Ça fait 10 ans.
J'ai l'impression, moi, que ceux qui représentent les États se sont bien beaucoup plu à mettre au plan européen des gens qui étaient le moins forts possible. C'est pour ça que moi, j'aime beaucoup Verhofstadt, parce que voilà un homme... européen, astucieux, qui a envie d'Europe, qui n'est pas béat, qui a une vraie vision de cette Europe qui devient une Europe aux cheveux gris et qu'il faut ouvrir, mais intelligemment, avec la réciprocité, avec des débats et des décisions fortes. Il faut une Europe puissance. Voilà, une Europe puissance. Et une Europe, comme disait, je crois que ça devait être peut-être Giscard d'Estaing, une Europe puissance dans la zone euro. L'Europe espace, nouer des partenariats, qu'on se bouge un peu, parce que là, on est en train de sombrer.
Donc, on vous souhaite de faire une belle campagne. Et de...
Vous nous y aiderez ?
En tant que média, on essaiera de vous donner la parole, en espérant qu'on aura une belle campagne européenne. Je vous remercie d'avoir participé à cette émission et d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci aussi à toi, Barbara, et pour ton bon éclairage sur la Suisse. Et je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission Fréquence Europe.